Nous sommes en train de regarder une petite étude sur la foi, puis quand on parle de la foi, c'est sûr qu'il y a des choses qui se répètent, il y a des sujets qui se répètent, il y a des phrases qui se répètent, il y a des versets qui se répètent. Est-ce que tout le monde connaît la Bible par cœur?
Non.
Donc ça fait du bien de se le refaire dire. On a besoin d'être marqué comme gravé dans notre esprit, ces versets-là. Parce que la base de la vie chrétienne, c'est la foi. En réalité, tous les sujets qu'on étudie sont importants, mais la foi, c'est la base. C'est la seule chose que Dieu aime vraiment dans les gens. Dieu regarde la planète aujourd'hui, puis comme si et comme moi, les deux bras, ils sont tombés à terre, puis il dit, ça se peut-tu, comment c'est en train de tout être cassé? Tout est cassé. Il a donné une belle planète, est en santé quand ça a commencé, puis là, aujourd'hui, toute la pollution, la destruction, les guerres, c'est là ce qui se passe sur la terre. Puis tout le monde vit dans le péché, tout le monde désobéit à Dieu. C'est quoi qui plaît à Dieu, en fin de compte, dans tout cela? Il y a une seule chose, puis il nous l'a dit. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est écrit clairement. Faut que tu croies en Dieu, puis faut que tu marches avec Dieu. C'est ce qu'on est en train d'étudier, si on veut plaire à Dieu à quelque part. Si on ne l'a jamais fait, il est temps de commencer. Puis si on est déjà dans ce course-là, on continue à apprendre c'est quoi que Dieu aime, c'est quoi que Dieu aime pas. Quand il dit qu'il aime la foi, mais on veut-tu le savoir, c'est quoi la foi? On veut l'apprendre, on veut développer la foi, parce que la foi va nous faire saisir des grandes choses. Mais l'important, c'est d'être reconnu, comme la Bible nous le dit, on est tous comme passés au test, d'être reconnu des vrais, des authentiques, parce qu'il y a plein de foi qui se véhicule dans ce monde, puis il y a beaucoup de mensonges, beaucoup de croyances religieuses, beaucoup de religions, puis Dieu n'a pas tout enseigné ça, c'est pas vrai. Il y a un seul chemin, puis il y a une seule foi que la Bible nous dit. Puis il faut découvrir c'est quoi la foi. Quand même, c'est pour ça qu'on étudie un peu plus en profondeur, puis on essaye de rajouter des idées là-dessus pour bâtir différentes idées. On a vu à date que Dieu aimait la foi, il cherchait des gens qui ont la foi, puis que la foi, mais ça se démontrait par des œuvres. La foi, c'est, il y a deux, dans Hébreux 11, ça dit, c'est une ferme assurance dans ton cœur, tu crois, là. Tu as une grosse croyance et une démonstration de ce que tu crois. La foi, c'est pas juste de la théorie. Il y a de quoi qui se vit, des œuvres qui se font pour démontrer ta foi. Là, Dieu, il nous a donné sa parole, puis là-dedans, je suis sûr qu'on va trouver des beaux versets qui vont nous faire approfondir ce sujet-là. Vive sa foi selon la parole de Dieu. On est tous prêts à dire, oui, Seigneur, je veux aller à ta suite, je veux rentrer au ciel. Je veux te suivre, te servir. Ça se dit bien. C'est facile à dire, c'est accessible à tout le monde de le dire. Mais après ça, Jésus dit, suis-moi. C'est correct. Là, on s'embraye, on veut le suivre. Mais on suit quoi? Là, on fait quoi? Où est-ce que je trouve les points de référence pour savoir c'est quoi que j'ai à faire pour le suivre, pour démontrer ma foi? Parce que je veux la démontrer. C'est pour ça que Jésus nous a laissé sa parole. Il a permis qu'on puisse avoir sa parole. Puis là-dedans, on retrouve tout ce qu'on a besoin de savoir pour marcher dans le chemin resserré qui mène à la vie. Jésus, il est la porte. Puis Jésus, sa parole à Jésus, c'est le chemin. Il faut trouver la porte. Quand tu as trouvé Jésus, tu as trouvé la porte, tu es rentré dans la porte. Mais il ne faut pas que tu restes dans le cadrage de porte. Il faut que tu marches dans le chemin. Puis le chemin, c'est sa parole. À partir du moment que quelqu'un est sauvé, comment doit-on démontrer notre foi? Tu as accepté Jésus, tu t'es repenti, tu as demandé pardon pour tes péchés. Tu as dit au Seigneur, je suis un pécheur, je le reconnais que je ne peux pas être sauvé par mes propres forces, que moi, je suis perdu, j'ai besoin d'un secours. Ah, Jésus, tu es mort pour moi, merci Seigneur que je puisse être sauvé. Je l'accepte, je le crois, je suis complètement convaincu que tu vas changer ma vie, que tu vas me pardonner, puis en plus, tu vas me changer pour que je devienne comme toi. Là, tu l'acceptes, Là, tu commences le chemin. Mais après que tu l'aies accepté, comment tu vas démontrer que tu as la foi? C'est assez important. Quelle est l'importance de la parole de Dieu dans notre vie de foi? Parce qu'on veut dire au Seigneur qu'on l'aime. On veut lui montrer qu'on l'aime. C'est facile de dire « je t'aime », puis après ça, il donne une claque en arrière de la tête. C'est pas de même qu'on entretient de l'amour avec quelqu'un. L'amour, c'est tu le dis, oui, mais tu fais des choses. Il y a de quoi à démontrer en pratique. On a vu un verset clé là, qui va se répéter quasiment à toutes les réunions quand tu parles de la foi. Où est-ce que ça vient, la foi? On l'a vu que la foi, dans Romains 10, 17, là, la foi vient de ce qu'on entend. Parce que dans ce temps-là, c'est pas tout le monde savait lire, mais le monde écoutait. Il allait au temple. Les gens, dans ce temps-là, ils allaient au temple à tous les jours pour prier et entendre la lecture de la parole de Dieu puis entendre des explications chaque jour. Les gens n'avaient pas leur Bible chez eux pour faire un culte personnel chez eux. Ils allaient au temple ou dans les synagogues puis ils allaient entendre la parole de Dieu. Puis la parole de Dieu était lue par quelqu'un qui savait lire, mais les autres écoutaient. Ça dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Fait que Dieu a laissé, il a permis qu'on ait sa parole pour grandir dans la foi. Si tu dis, oh ben moi, j'ai pas une foi assez grande, ben mets-toi à lire la Bible, c'est sûr que ta foi va être boostée. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est pas juste un livre ordinaire, c'est une puissance de Dieu. Dieu a mis ça, la parole de Dieu, c'est une puissance pour sauver les âmes. Il dit même que c'est une nourriture spirituelle qu'on a besoin, autant qu'on a besoin de pain pour vivre. Aujourd'hui, on ne mange pas juste du pain, mais dans ce temps-là, ils mangeaient beaucoup de pain. C'était quasiment la seule base de nourriture qu'il y avait dans ce temps-là. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est nécessaire pour notre vie spirituelle qu'on se nourrisse des choses qui viennent de la parole de Dieu, pour que notre foi augmente. Puis une fois que tu as la foi, tu vas marcher dans la foi parce que tu connais où tu t'en vas, tu t'es nourri de la parole. La foi prend racine dans la parole de Dieu et doit continuer à s'enraciner davantage. Il n'y a pas beaucoup d'arbres qu'on peut planter, qu'on plante, là, qu'ils font une racine juste en surface puis ça arrête là. Il y en a-tu peut-être qu'il y a des plantes grimpantes qui sont juste en surface, mais les racines, normalement, descendent dans le sol pour aller chercher les minéraux, pour aller chercher le jus qu'ils ont besoin pour pouvoir s'accroître. Mais ce qui pousse en surface, ça prend pas un gros soleil pour le faire sécher, si la racine n'est pas capable de descendre. Mais la foi, c'est la même chose. La foi prend racine dans la parole de Dieu. La foi, c'est ce que j'entends de la parole de Dieu. Fait que plus que je vais m'enraciner dans la parole de Dieu, plus que je vais être nourri, puis ma foi va devenir solide. Puis je vais grandir dans la foi. Puis la foi sans racine dans la parole de Dieu est une foi qui séchera au soleil et sera sans fruit. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus lui-même. Il dit dans Luc, au chapitre 8, le verset 5 et 6. Jésus parle encore de l'exemple du semeur qui sème. Puis là, il a semé de la semence sur le long du chemin. Là, ça dit, un semeur sorti pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds, les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Ça, le roc, c'est qu'il y avait un petit peu de terre peut-être au-dessus, mais en dessous, c'est du roc. Il dit, quand elle fut levée, parce qu'aussitôt qu'elle a été mise dans la terre, elle commence à pousser, mais là, il n'y a pas de racine qui peut rentrer dans le fond. C'est sur du roc. Là, ça dit, quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Puis quand Jésus l'explique, ce parabole-là, il ramène ces deux idées-là au verset 12 et 13 du chapitre 8 de Luc. Il dit, ceux qui sont sur le long du chemin, c'est ceux qui entendent la parole, c'est encore toute face à la parole de Dieu. La semence, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible. Il dit, t'entends la semence, puis le diable, il vient, puis enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Là, c'est ceux qui se font voler, qu'est-ce que Dieu venait de semer. C'est une bénédiction de Dieu lorsqu'on entend la parole de Dieu prononcée. Ce qu'on vient d'expliquer, là, que le plan du salut, en quelques mots tantôt, là, mais tous ceux qui vont entendre ça, c'est une bénédiction de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui peut sauver leur vie, leur permettre qu'ils aient la vie éternelle. Fait que c'est excessivement important ce qu'on entend là. Là, il dit que le diable, il vient puis il enlève ça de leur cœur. Il enlève la parole. C'est que la personne l'oublie, la parole. Il oublie ce qu'il a entendu de la Bible. Puis là, il est perdu puis il n'est pas sauvé. Faut pas oublier ce que Dieu nous sème dans notre cœur. Si on a entendu la parole de Dieu à quelque part, c'est parce qu'on est appelé à être sauvé. Laissons-nous pas voler par le diable pour enlever la parole qui a été semée dans notre esprit. C'est les versets de la Bible qu'on a entendus. Ça, ça peut nous sauver. Faut s'attacher à ça puis dire, je veux pas l'oublier puis j'en veux plus. Je veux tout savoir. Je veux grandir dans ma foi puis je vais me nourrir pour afin que je me garde frais dans la pensée de ce que, comment faire pour être sauvé puis de rester en communion avec le Seigneur. Si on continue au verset 13, il dit, ceux qui sont sur le roc, c'est comme s'il y avait de la terre un peu en surface, mais dans le fond, c'est un rocher. Lorsqu'ils entendent la parole, ils la reçoivent avec joie. Ils sont tous excités. Là, ça commence, Alléluia, je suis sauvé! Ils l'ont reçu de suite, puis ils l'ont reçu, puis ils étaient dans la joie, puis ils se disaient sauvé. Ils la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. C'est là le problème. Le manque de racines. Une plante qui pousse dehors, un arbre qui pousse, puis qui ne peut pas faire ses racines, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne peut pas aller chercher ce qu'il aurait eu de besoin pour croître. Le soleil va le faire chauffer, puis il va manquer d'humidité, puis il va mourir. Ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps, puis ils succombent au moment de la tentation. Il est important de faire partie de ceux qui ont des racines. Puis avoir des racines, mais une racine, ça a le temps de pousser. Puis ça pénètre. Puis une racine au niveau de la foi s'enracine où? Dans la parole de Dieu. Faut que nos racines poussent dans la parole, dans la Bible. Puis là, ta foi va se fortifier parce que ta foi vient de ce que tu entends de la parole. Plus tu vas avoir des racines profondes, plus tu vas être une personne intéressée à vouloir apprendre la parole de Dieu, plus que la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Dieu qui est dans la parole de Dieu, va agir dans votre vie, puis elle va fortifier votre foi pour que vous soyez capable de marcher par la foi dans ce monde, puis de persévérer dans la foi jusqu'à la fin. La foi a besoin de la connaissance de la volonté de Dieu afin de demeurer la vraie foi. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de foi qui existe, mais des fois dans des choses qui ne sauvent pas. Tu peux avoir la foi que je prends l'avion, je m'en vais à telle place. Oui, mais ça donne quoi au niveau spirituel d'avoir mis ta foi dans ton avion? Mis la foi dans ton portefeuille, mis la foi dans ton médecin, mis la foi dans n'importe quoi d'autre que de la mettre en Dieu et en sa parole. Tu peux mettre ta foi dans n'importe quoi, mais ça ne sauve pas. Il y a juste la foi en Dieu, en sa parole, qui va te sauver. C'est pour ça qu'il faut avoir nos racines là-dedans. Il faut que tu ajoutes à ta foi de la connaissance. La connaissance de quoi? La connaissance de la parole. Ça nous dit dans Jean 6, 45, « Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père, entendre l'appel du Père, et reçu son enseignement, viens à moi. » Voyez-vous? Il y a comme un appel ces deux côtés. Dieu nous appelle, mais il faut aussi recevoir son enseignement. Combien est-ce qu'il y en a de religions qui disent, nous autres, on sert Dieu. Puis dans leur religion, mais ils n'ont pas pris son enseignement, fait que là, ils en ont fait un enseignement. Puis dans leur religion, ils tuent les autres personnes pensant qu'ils vont avoir des vierges au ciel qui les attendent. Hein? C'est ça. Les autres religions qui poussent, ils croient en un Dieu, mais là, ils renient Jésus, ils renient la parole, ils renient tout le reste de ce que Dieu a dit. Donc, il y a deux affaires que quelqu'un veut grandir dans la foi. Premièrement, pour être sauvé, et après ça, grandir dans la foi, faut que tu aies reçu l'attirance. Dieu t'appelle, tu l'entends parler, ça fait un petit quelque chose. Il me semble qu'ils ont raison quand ils parlent, puis il y a quelque chose qui m'attire. Mais ça, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui est en train de vous appeler. Venez, je vous appelle. Puis là, vous allez entendre aussi les enseignements. Ils sont où, ces enseignements-là? Mais quand vous écoutez les messages, quand vous venez ici, vous allez aller sur Internet, il y en a d'autres. Là, il y a des enseignements. Là, tu comprends qui est Dieu, que Dieu est composé de trois êtres. Puis là, il y a le Jésus qui est venu il y a 2000 ans. Il est mort pour toi. Le Saint-Esprit qui veut rentrer dans ta vie. Tu apprends toutes sortes de choses. Puis là, tu as un contact avec Dieu par le Saint-Esprit. Puis là, il veut te guider dans ta marche de tous les jours à faire sa volonté puis à rejeter ce que Dieu aime pas. Tu as un combat, puis tu as besoin de rester selon sa parole, son enseignement, sa révélation. C'est là que la foi doit être enracinée dans la parole. On n'a pas de doute pour dire qui est Dieu. Mais quand c'est le temps de marcher aussi, pour être sûr qu'on met nos pieds dans le chemin resserré, et non pas qu'on est en train de prendre un chemin, puis on est tombé dans le chemin large et spacieux qui mène à la perdition. C'est pour cela que Jésus et les apôtres prêchaient d'ajouter la connaissance de la parole de Dieu à notre foi. Tu as la foi, c'est correct, tu commences, mais il faut que tu rajoutes la connaissance de la parole de Dieu à ta foi. Pourquoi tu as besoin de ça? Jésus l'a dit, je l'ai mentionné le verset tantôt dans Matthieu 4:4, il répondit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement. » Pensons pas qu'on peut vivre sur cette terre juste avec du pain. Oui, ton corps va vivre si tu manges du pain. Mais si tu veux vivre spirituellement, faut que tu te nourrisses de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Où est-ce que je vais aller chercher? Mais c'est la Bible, les enseignements de la Bible, parler de la Bible. Quand vous sortez d'ici, votre foi a été boostée parce que la parole de Dieu a été semée. Vous avez reçu des versets qui vous ont fait du bien. Ça vous a fortifié. On sort d'ici fortifié. Comme on peut revenir le dimanche prochain, comme on a de la misère, on a besoin encore de se faire fortifier. C'est comme un hôpital spirituel si on remonte le monde spirituellement. On booste la foi de tout le monde. Puis après ça, on sort. Puis à un moment donné, quand même, votre foi va grandir au point que vous êtes capable de vous entretenir chez vous avec le Seigneur, puis garder votre niveau. C'est comme une tank à gaz. Si tu gazes une fois par semaine avec ton char, tu vas faire la semaine peut-être, mais tu vas arriver, ta tank va être vide. Comme tu peux maintenir ta tank pleine à chaque jour, puis là, tu as toujours du gaz, tu n'en manques pas du gaz, puis là, tu peux faire ce que tu as à faire. Mais la foi, c'est la même chose. Jésus nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, il faut t'ajouter à ta foi des saintes écritures, la Bible, les paroles de Dieu. Parce que ça, tu t'en rends pas compte, mais ça te nourrit spirituellement. Moi, quand je mange du pâté chinois, je connais pas tous les ingrédients chimiques qu'il y a là-dedans, mais quand je l'avale, ça fait son œuvre. Le pâté chinois fait son œuvre. Tu te sens nourri, t'as plus faim sur le coup, puis après ça, t'es bon pour la journée jusqu'au prochain repas. C'est un miracle. Mais gloire à Dieu, il a fait que si on mange, on est soutenu physiquement. Mais spirituellement, c'est la même chose. Si on mange spirituellement, on est soutenu spirituellement. C'est dans la parole. Dans 2 Pierre 1:5, ça nous dit, « Faites tous vos efforts à joindre à votre foi. » Voyez-vous, là, il parle de la foi. Là. On veut la foi, on a la foi. Mais faites des efforts à rajouter à la foi. Là, il dit 6 ou 7 affaires. Mais la deuxième de ces affaires-là, il dit la science. Mets tous tes efforts à ajouter la connaissance, La science, c'est la connaissance. Connaître la parole de Dieu. Mets tes efforts là-dedans. Puis là, il dit, si tu mets tous tes efforts, tu vas apprendre, ça te laissera pas oisif, ni stérile. Tu vas porter du fruit. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu qui est la puissance qui t'amène à porter du fruit. Dieu se sert de sa parole, puis il dit, mets tous tes efforts à joindre à ta foi la parole. On a besoin d'apprendre à connaître comment ça marche. Puis qu'est-ce que ça peut faire, puis de l'utiliser, puis de la confesser quand c'est le temps, s'en servir. La foi ne peut se dissocier des Écritures. Tu peux pas dire, j'ai la foi, mais la Bible, non, j'ai pas besoin de la Bible. Lorsque nous sommes animés de la foi, nous parlerons selon les Écritures. La foi, la vraie foi authentique. Là. Dans 2 Corinthiens 4, 13, ça nous dit, nous sommes animés de ce même esprit de foi dont il est question dans les Écritures. J'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. Premièrement, tu crois, puis après ça, tu rouvres la bouche pour prononcer les versets. Tu y crois. Nous, là, il rajoute, nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Puis nous, on parle de quoi? C'est toujours selon les Écritures. Il dit, j'ai cru, puis c'est eux autres, ils prêchaient. Pourquoi qu'ils prêchaient? C'est parce qu'ils croyaient. Tu prêches quoi? Tu prêches les Saintes Écritures. C'est toujours le moteur de chaque chrétien depuis le début de la vie chrétienne, même depuis aussi longtemps que le livre a été écrit. Avant que les livres soient écrits, les gens se transmettaient oralement tout ce qu'il avait appris de Dieu. Fait que Moïse, apparemment, c'est lui qui a tout écrit de la Genèse jusqu'à Moïse. Il a écrit le livre de la Genèse, c'est l'histoire du peuple juif. Il l'a écrit dans un livre. Mais avant, ces livres-là n'existaient pas. Fait qu'il a fallu que toutes les informations qu'il a écrites dans ce livre-là, il l'avait par cœur. C'était transmis oralement. Donc, il n'était pas sans aucune connaissance. Il était rempli de la connaissance de toute l'histoire depuis Adam et Ève jusqu'à que ça soit arrivé à sa vie à lui. Puis il a écrit toute cette histoire-là sur papier pour être sûr que ça puisse persister à travers les temps. Mais il a toujours eu la révélation de la volonté de Dieu, la connaissance de Dieu, la science de Dieu, la parole de Dieu. Jésus était l'exemple parfait de quelqu'un qui marchait par la foi. Premièrement, Jésus connaissait les Écritures. Dans ce temps-là, il y avait, mais on dit qu'il n'y avait pas de Bible. Oui, il y en avait une Bible. L'Ancien Testament était complète dans le temps de Jésus. Puis Jésus se référait à l'Ancien Testament. Quand il dit « Il est écrit », c'était écrit dans l'Ancien Testament. Il servait des versets de l'Ancien Testament pour pouvoir combattre, pour pouvoir faire ses affaires. Jésus connaissait les Écritures. Puis dans Jean 7, 15, les Juifs, ça nous parle justement que les Juifs ont donné un commentaire sur Jésus. Ils s'étonnaient en disant « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié? » Mais Jésus la connaissait, la Bible. Pourquoi qu'il connaissait la Bible, Jésus?
Parce que c'est le Fils de Dieu.
Parce que c'est le Fils de Dieu, il est Dieu le Père. C'est quoi l'autre réponse? Parce que Jésus est la parole faite chair. Ce qu'ont reçu les prophètes, les révélations de l'Ancien Testament, l'Esprit Saint qui a donné les paroles, c'est à Jésus qui est en train de parler. Jésus est la parole, c'est lui qui commande les choses, qui a dit que la lumière soit, c'est la parole qui prononçait l'ordre pour que la lumière soit créée. Toutes choses ont été créées par lui, il est la parole faite chair. Fait qu'il connaît la Bible. Il savait qu'est-ce qu'il y avait. C'est lui qui est à l'auteur, celui qui a inspiré. Par tout ce que Jésus allait, il prêchait les Écritures. Il faisait pas juste la connaître. Il prêchait les Écritures. Il parlait de la parole. C'était dans Luc 24, 32, ça nous dit, Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin puis nous expliquait les Écritures? Quand tu entendais Jésus parler, quand il parlait de la volonté de son Père, puis il référait toujours au passage de l'Ancien. Quand il a eu le temps d'expliquer des affaires, il prenait des versets de la Bible puis il les expliquait aux gens. Il essayait d'amener ça avec des paraboles ou des exemples pour essayer de faire comprendre, mais il voulait faire comprendre les principes qui étaient tout écrits déjà dans la Révélation, dans l'Ancien Testament. Jésus connaissait la Bible, puis Jésus expliquait. C'était un gars qui était expert dans l'explication. Même à l'âge de 12 ans, il était dans le temple. Ses parents l'avaient oublié là. Ça, il était parti en chemin sans retourner chez eux. Une journée et demie de marche après, voyons ce qui est Jésus. Là, ils ont réalisé que Jésus n'était pas là. Ils sont retournés à Jérusalem. Puis Jésus, il était debout dans le temple, puis il parlait avec les pharisiens, puis les docteurs de la loi. Puis tout le monde était étonné d'entendre Jésus donner ses explications sur les sujets que Jésus pouvait parler. Jésus était avancé bien plus que la majorité de tous les humains, même à son jeune âge, en son début d'adolescence. Sans qu'il ait lu la Bible, il l'avait en lui. C'était imprimé. C'est comme s'il y avait la révélation de Dieu tout le temps. Tous les jours, il était versé dans les enseignements des Écritures. Dans Marc 14, 49, Jésus dit, « J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple. » Jésus, c'est un gars d'église. Jésus allait dans le temple, puis il se tenait dans le temple, puis il prêchait la parole de Dieu. Puis il pouvait se lever, lui aussi, pour pouvoir faire la lecture de la, comme je vous disais tantôt, il faisait des lectures du texte, puis tu le vois dans un verset qui était dans le temple, puis il a lu, il a déroulé le livre, puis il a lu les versets, puis là, il a dit cette parole de l'Écriture est accomplie. Mais il lisait, ça dit selon sa coutume, il s'est avancé en avant pour aller lire. Fait que la lecture, l'étude, l'enseignement de la Bible, c'était courant dans la vie de Jésus. Ça dit tous les jours, parmi vous, enseignants dans le temple. Fait que pour Jésus, connaître la parole de Dieu, c'était quelque chose d'important. C'était quelque chose d'important parce qu'il ouvrait toujours la bouche, tous les jours, pour expliquer des choses de la Bible. Un autre passage, ça nous dit que Jésus, il veillait à ce que les Écritures soient accomplies dans sa vie. Lui, tout ce qui était écrit dans les révélations de l'Ancien Testament, il voulait que ça s'accomplisse. Quand Jésus est arrivé sur la croix, là, il se faisait crucifier. C'est sûr que ça ne te tente pas de jouer quand ça t'arrive. Là. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous planter un clou d'un doigt là, ou un coup de marteau sur un pouce, ça fait mal. Hein. Mais quand tu es cloué sur la croix, tu ris pas. Même en ce moment-là, quand il était dans ses souffrances, il pensait encore à la parole de Dieu. Puis pour lui, c'est important que tout ce qui avait été annoncé dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, que ça soit accompli, que ça se fasse comme ça a été écrit. Il s'en faisait comme faut que la parole s'accomplisse. Bon, vous lisez cette bout-là dans Jean 19, le verset 28 à 30, ça dit, « Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'Écriture fût accomplie. » Jésus, là, il était cloué sur la croix, puis il souciait à ce que toutes les Écritures, les écrits, c'est la Bible de l'Ancien Testament, soient toutes accomplies. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai soif. Pour que les Écritures soient accomplies, il fallait qu'il prononce cette parole-là. Puis il y avait là un vase plein de vinaigre, les soldats le remplirent d'une éponge, puis l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils s'approchèrent de sa bouche, puis quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Qu'est-ce qui était tout accompli? Les prophéties de l'Ancien Testament à son sujet. C'était écrit dans les psaumes qui ont donné du vinaigre à boire. C'est une prophétie pour annoncer que le Messie sera abreuvé de vinaigre par le monde qui donnera du vinaigre. Et pour que cette phrase-là soit accomplie, bien, Jésus t'a cloué sa croix, puis il dit, afin que l'Écriture soit accomplie, il a dit, j'ai soif. Puis là, il y en a qui ont donné à boire du vinaigre. Puis là, il a dit, tout est accompli. Puis là, il a rendu l'esprit, il est mort. Pour lui, les écrits, la Bible, il n'y a rien de plus sacré. Pour Jésus, Jésus sait parfaitement que la parole de Dieu demeure éternellement, puis tout ce qui est écrit dans sa parole va s'accomplir. Jésus ne cherchait pas de raccourci pour passer à côté des Écritures. Parce que des fois, là, les humains cherchent des raccourcis. Dieu est comme un exemple d'Abraham. Dieu il avait dit qu'à travers Sarah, il y aurait une descendance. Puis à un moment donné, Abraham, il a douté. Puis il a été couché avec la servante pour pouvoir faire un petit pensant qu'il aiderait Dieu à accomplir sa promesse. Mais Jésus n'était pas comme ça. C'était soucieux. Il était soucieux à vouloir mettre en pratique ce qui était écrit. C'était annoncer telle et telle chose, puis je dois faire attention à mettre ça en pratique. Qu'est-ce qu'il fait? Il a fait Jésus dans Matthieu 26, 53. Il y en a qui ont dit, ben quasiment, là. Pourquoi tu t'en sors pas, puis tu ne fais pas tout ce qui est nécessaire pour ne pas y aller à la croix? Là, Jésus, il répond, dans ça, c'est une façon de parler que je vous ai dit là. Il dit, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Jésus il avait la possibilité de contourner le problème. Il aurait fait ça de même. 12 légions d'anges auraient débarqué, puis tout le monde serait assassiné, tout le monde serait détruit. Ça en prend juste un, en réalité un ange pour le faire. Il aurait pu faire ça de même, puis il aurait été sorti du problème. Il n'aurait même pas eu besoin d'y aller à la croix. Mais sa pensée à Jésus, c'était autre chose. Il dit, comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après laquelle il doit en être ainsi? Donc, son souci était que ce qui était écrit à son sujet puisse s'accomplir. La vraie foi est basée sur la parole de Dieu, puis de vouloir vivre en fonction de ce qui est écrit. Tu veux accomplir ce qui est écrit. Tu veux que la parole de Dieu soit honorée. Tu veux pas faire des raccourcis puis des crocheries pour éviter de la mettre en pratique. Tu veux la mettre en pratique.
Amen.
Lors de ses combats avec le diable, c'était pas des farces, là. Si Jésus avait tombé dans un seul péché, il s'en allait dans l'étang de feu, lui, avec. Le diable avait combattu Jésus comment? Il est venu pour le tenter, subtilement. Il est venu pour le tenter, pour le faire tomber dans le péché. Puis Jésus confessait et référait toujours ses réponses face à la parole de Dieu. Pour lui, c'est la Bible qui est l'épée. Il prenait un verset de la Bible, il répondait au diable avec un verset. Dans Matthieu 4:4, Jésus répondit, il est écrit. Donc, Jésus se servait des Écritures, sa foi était dans les Écritures, puis il servait des Écritures pour combattre le diable. Le diable te dit quelque chose, mais moi, la Bible te dit ça. C'est un coup d'épée que tu y donnes au diable. Mettons, quand tu es enfant de Dieu, le diable essaie de te donner des doutes que t'es-tu vraiment sauvé? T'es trop pécheur pour être sauvé. Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il est écrit. Tu te sers d'un verset, puis tu frappes. Tu le mentionnes, le verset. La foi est basée sur la parole, puis tu te sers de la parole pour te défendre. Comment tu peux te défendre si tu ne connais pas? Tu peux pas te battre, tu vas manger des volets continuellement. Faut que tu connaisses la Bible, faut que tu saches les promesses de Dieu pour être capable de répondre à l'ennemi avec des versets. Lors de ses débats avec les gens qui l'entouraient, Jésus a eu plusieurs ostinations. Lui essayait de dire des choses, d'expliquer des choses, puis le monde l'ostinait. Puis il essayait toujours de ramener ça au contraire. Jésus répondait à ces gens-là toujours en confessant des versets de la Bible. Dans Matthieu 21:13, il leur dit, « Il est écrit, ma maison sera appelée de maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Fait qu'il servait d'encore des versets, puis il frappait, puis il répondait aux gens qui l'entouraient, « Il est écrit. » C'est important que la foi se serve des versets, parce qu'on prend racine dans la parole, on se fortifie dans la foi, puis après ça, on a les versets de la Bible s'en servir comme une épée. Parce que la parole de Dieu est une épée à deux tranchants. On voit ça dans Hébreux 4:12. La foi en la vérité est de croire en Jésus et de croire Jésus en gardant sa parole. Tu peux pas juste dire, j'ai reçu Jésus, mais je crois pas que ce que Jésus a enseigné. Ou c'est pas important ce que Jésus a enseigné. Oh, je voudrais le cadeau, oui, je veux le cadeau, mais ce qu'il a dit, c'est pas important. Que je prenne aucune attention. Je veux pas la lire, je veux pas l'écouter, je veux pas l'apprendre, j'ai pas le temps pour ça. On tasse tout ça, c'était tout ce qui était de nécessaire pour notre foi. Mais la vraie foi en la vérité, c'est de croire en Jésus et de croire Jésus en gardant sa parole. Marc 8:38, ça nous dit, c'est Jésus qui parle. Quiconque aura honte de moi et de mes paroles. Oups, des fois on pense juste que ça a rapport à Jésus seul. Non, quand tu reçois Jésus, il faut que tu reçoives aussi ses paroles. Si tu n'as pas honte de Jésus, là, je vais l'accepter, mais moi, demandez-moi-en pas plus. Puis là, on rejette la parole, c'est pas mieux. Quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui. C'est pour ça que les prédicateurs, les ceux qui prêchent la parole, reviennent toujours en prêchant avec des versets de la Bible. Pourquoi qu'ils reviennent avec des versets de la Bible, vous pensez? Parce qu'il y a un prédicateur a le souci, un point d'inquiétude, mais il sait que son devoir est d'enseigner tout ce que Jésus a prescrit. C'est ça la mission que Jésus a donnée à ses disciples. Allez faire des disciples et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Donc, un disciple, quand tu deviens disciple, faut que tu acceptes Jésus, mais il faut que tu sois volontaire, en anglais « willing », de vouloir apprendre aussi la parole de Dieu. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie d'obéissance à la parole de Jésus. Il faut que tu te laisses accepter, il faut que tu acceptes d'écouter pour vouloir mettre en pratique.
Amen.
Une caractéristique des disciples, d'un vrai disciple, des disciples de Jésus, c'est qu'ils s'appliquent à vivre leur foi en mettant en pratique la parole. 1 Corinthiens 4:6. L'apôtre Paul, il dit, au niveau dans un verset, qu'il savait qu'il y aura un jugement après la mort. On va tous faire face au jugement. Puis il y a une seule manière d'éviter le jugement d'après notre mort. Mais on ne peut pas l'éviter. Tout le monde va ressusciter. Puis tout le monde va avoir à rendre compte de sa vie. C'est pour ça qu'il est important. On se dit, oh, ben moi, je n'étais pas si pire que ça, mais ça prenait un seul péché, on ne peut pas rentrer dans le paradis. Un seul. La Bible, elle dit, tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Donc, il faut qu'on prenne ça au sérieux. Là. Jésus n'est pas mort sur la croix pour rien, il est mort parce qu'il a donné sa vie, puis c'est le seul bouée de sauvetage qu'on a pour être lavé de nos péchés. Il faut l'accepter, puis il faut le suivre. Puis Paul, en sachant qu'il y avait un jugement après pour chaque personne, il dit, c'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos. Ça, c'était deux prédicateurs dans cette église-là. Afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Quand tu sais que Dieu a parlé, puis il a dit telle affaire. C'est écrit, là. C'est tout écrit, on en cause ce livre-là aujourd'hui, là. On peut pas dire, oh, Dieu, je savais pas qu'est-ce que tu voulais. Non. Dieu a déjà parlé. On voudrait que Dieu nous apparaisse. Oh, Seigneur, si tu pourrais m'apparaître, parle-moi. Mais il va te dire, regarde, là, j'ai un beau livre. Tout est écrit. Tu peux l'avoir en français, en anglais. Tu peux l'avoir en plusieurs langues. Tout est déjà écrit de ce qu'il avait à dire. Il veut pas changer rien. Il reviendra pas changer rien. Il dit sa parole va demeurer éternellement. Puis il a dit aussi que le monde va être jugé face à ses paroles que lui a dit. Faut-tu, c'est important, faut que je les apprenne, ces paroles-là. Là, Paul lui dit, quand il vivait sa vie, il s'arrangeait, puis il faisait tous ses efforts à pas aller au-delà de ce qui est écrit. Les écrits, la parole de Dieu, c'est ce qui est le plus important. Ta foi, t'as beau dire que t'as la foi, mais si t'as la foi, tu vas faire attention à ce que tu vis, puis tu vas vouloir baser ta vie sur la parole de Dieu. Ta foi va s'enraciner. Tes racines vont pousser dans la parole. Tu vas vouloir l'apprendre, tu vas vouloir en manger. Tu veux te nourrir, puis plus que tu te nourris de cela, plus t'as faim, plus t'as le goût d'en apprendre, plus ça finit plus. Comment prêchera une personne remplie de foi, mais elle prêchera la parole de la foi? Dans Romains 18, c'est ce que Paul nous dit. La parole est près de toi, dans ta bouche, puis dans ton cœur. La parole, quelle parole? Mais quelqu'un qui l'a reçu, la parole. C'est pour ça, il dit, si tu confesses de ta bouche en croyant du cœur, tu seras sauvé. Mais cette parole-là est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Tu veux le recevoir, tu crois que Jésus est venu. Confesse-le. Dis-le. C'est la parole de la foi que nous prêchons. C'est la parole de la foi. Tout le message, la parole, c'est nous amener à avoir la foi dans ce que Jésus a fait, puis de vouloir le suivre. On va faire une prière pour s'il y a des gens qui voudraient accepter le Seigneur comme leur sauveur. On va prier avec ces gens-là pour que les gens puissent le recevoir. La vie est courte, on ne sait pas qu'est-ce qui va se produire dans notre vie. On a-tu pour une semaine, on a-tu pour un an, pour 25 ans? Mais le temps qu'on a à vivre, il faut apprendre à connaître Dieu et à connaître sa parole. On va faire une prière ensemble. Père, je te remercie pour ta parole que tu enseignes, toutes tes vérités. Merci, Seigneur, de nous montrer le chemin. Je te demande, Seigneur, de nous conduire, parce qu'on est égaré facilement, on est perdu facilement. On a besoin de te ramener dans tes voies. Je te demande de faire un œuvre dans mon cœur, dans ma vie, pour me ramener les yeux sur ta parole. Que ça devienne ce qu'il y a de plus important dans ce monde. Que notre foi soit basée dans ta parole, dans rien d'autre. Qu'on apprenne à avoir des racines, puis s'enraciner de plus en plus selon ce que tu nous as donné dans ta parole. Seigneur, je te donne ma vie. Conduis-moi par ton Saint-Esprit à ce que je puisse approfondir ma relation avec toi en me dirigeant d'après ta parole. Je remets ma vie entre tes mains, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.